L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et
Elsa.
Bienvenue dans cette nouvelle édition de L'un dans l'autre, le magazine d'info locale de Radio B. Bonjour Elsa.
Bonjour Perrine, bonjour à toutes et à tous. Les journées nationales des prisons se déroulent chaque année dans toute la France, la dernière semaine du mois de novembre. Cet événement permet de donner un coup de projecteur annuel sur les questions carcérales. L'occasion pour nous d'aller à la rencontre de certains et certaines qui sont engagés auprès des détenus, les visiteurs et visiteuses de prison. On ne connaît pas forcément leur existence ou leur rôle. Ils ou elles sont des bénévoles agréés par l'administration pénitentiaire qui se rendent régulièrement dans les établissements pour rencontrer individuellement des personnes détenues. Leur mission est sociale. Ils offrent une présence, une écoute et un lien avec le monde extérieur à ceux qui sont isolés. Mais il n'y a pas que les détenus qui ont besoin de soutien. Leurs familles aussi ont besoin d'écoute, notamment avant les visites au parloir. D'autres bénévoles accompagnent les moments d'attente et offrent des espaces de parole et de réconfort aux proches des détenus. Nous avons rencontré Marie Carminati de l'Association nationale des visiteurs de prison, ainsi que Françoise Picollet de l'Association d'accueil des familles et amis des détenus, qui nous font part tous deux de leur engagement.
On les retrouve tout de suite après les brèves.
L'un dans l'autre, les brèves.
Culture ado, les jeunes de l'Ain au cœur des médias et du numérique.
Du 20 novembre au 14 décembre 2025, une vingtaine de bibliothèques de l'Ain accueilleront la nouvelle édition de Culture ado, un mois d'animation gratuite autour du thème « Les ados, les médias et l'actualité ». Au programme, atelier radio, jeux de rôle, escape game, rencontre avec la journaliste Olivia Villamy qui animera des ateliers d'éducation aux médias et trois conférences parents-ados sur TikTok à Montluel, Nantua et Saint-Génie-Pouilly. Grande nouveauté cette année, un week-end de 100% ados du 28 au 30 novembre avec des activités créatives, jeux vidéo, goûter littéraire et même une soirée film pizza. Autre temps fort, un tournoi interbibliothèque de Mario Kart 8 les 26 et 29 novembre, une première dans le département. Toutes les animations sont gratuites sur réservation auprès des bibliothèques participantes. Programme complet sur 1.fr/culture-ado.
Arme blanche, une nouvelle réglementation entre en vigueur dans l'Ain.
Depuis la publication de deux décrets en juillet et septembre 2025, la réglementation sur les armes blanches se durcit en France. L'objectif, renforcer la sécurité et limiter l'accès à ces armes, notamment aux mineurs. Trois mesures principales sont désormais en place. Affichage obligatoire dans tous les commerces concernés de l'interdiction de vente d'armes aux mineurs. Interdiction totale des couteaux zombies et des coups de poing américains à quatre trous. Encadrement strict de la vente de couteaux papillons, à cran d'arrêt ou d'étoiles de ninja. Les détenteurs particuliers de couteaux désormais interdits ont jusqu'au 7 décembre pour les remettre à la police ou à la gendarmerie sous peine de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Les commerçants, eux, ont jusqu'au 7 mars 2026 pour se conformer aux nouvelles obligations d'autorisation, de sécurité et d'affichage.
Transition énergétique, les zones d'accélération des énergies renouvelables finalisées dans l'Ain.
Le 20 octobre 2025, la préfète de l'Ain a signé l'arrêté officialisant la cartographie complète des zones d'accélération des énergies renouvelables dans le département. Ces zones, définies par les communes entre 2023 et 2025 dans le cadre de la loi APER, visent à faciliter l'implantation de projets de production d'énergie verte.
La loi APER, tu nous en dis plus ?
Oui, la loi APER, adoptée le 10 mars 2023, vise à accélérer le développement des énergies renouvelables en France pour réduire la dépendance aux énergies fossiles et atteindre la neutralité carbone. Elle confie notamment aux communes le rôle de définir des zones d'accélération favorables à l'implantation de projets comme le solaire, éolien ou la méthanisation. Au total, 177 communes de l'Ain ont identifié au moins une zone favorable à l'accueil d'installations. L'objectif, accélérer la transition énergétique locale, renforcer la souveraineté énergétique du territoire et contribuer à la décarbonation de l'économie.
L'un dans l'autre, l'interview.
Si nous avons beaucoup entendu parler dernièrement dans l'actualité des conditions d'incarcération en France, grâce à un détenu très connu, maintenant sorti de prison sous contrôle judiciaire, de suppositions de ce qu'il allait faire, de ce qu'il allait lire et de ce qu'il allait manger en prison, cet endroit reste un lieu chargé de fantasmes et de représentations, nourri autant par l'imaginaire collectif que par la méconnaissance de sa réalité. Pour essayer de comprendre comment cela se passe, nous avons voulu donner la parole pendant ces journées nationales de la prison à des personnes au contact de ces établissements. Marie Carminati, Françoise Picollet, l'une visiteuse auprès des détenus, l'autre qui accueille leurs proches. Première question que nous avons envie de leur poser, alors comment cela se passe concrètement les rencontres? Comment se déroulent leurs interventions?
Quand on est visiteur, je vous passe les détails pour devenir visiteur, parce qu'on ne se présente pas un jour en disant... J'ai envie de rendre visite aux détenus. Il y a une procédure qui fait qu'on valide notre demande ou pas. Et une fois qu'on est agréé, ça s'appelle un agrément, il y a un service à l'intérieur du centre pénitentiaire qui nous affecte des détenus. C'est un peu le vocabulaire utilisé. Et on a donc un nom, un prénom, un numéro d'écrou. Et après, on s'organise, entre guillemets, comme bon nous semble, c'est-à-dire qu'on organise nos visites une fois par semaine, une fois par quinzaine, plus, non, ça peut être encore moins. Il y a toute une procédure à suivre, c'est-à-dire que on doit prévenir impérativement le parloir de notre rendez-vous avec le ou les détenus 48 heures avant. Sinon, on est recalé, on nous dit qu'on a oublié de prévenir et donc on n'aura pas de rendez-vous ce jour-là. Voilà, on reçoit les détenus dans ce qu'on appelle un box. C'est une petite pièce qui ne s'ouvre pas de l'intérieur, elle s'ouvre de l'extérieur. On est seul avec les détenus et la rencontre dure le temps qu'on veut. En général, c'est trois quarts d'heure, une heure.
Voilà, et pour être bénévole à l'association des familles, d'accueil des familles, il suffit de poser déjà sa candidature auprès des membres du président de l'association ou de la présidente, et on organise une rencontre. Quand la personne se dit « oui, ça me correspond bien », elle va venir à des permanences, et c'est les bénévoles qui vont accompagner cette nouvelle personne pendant plusieurs semaines. Et quand la personne est prête, et si ça convient effectivement à l'association, on fait une demande d'habilitation. Pareil, on ne peut pas rentrer comme ça, même à l'accueil des familles, qui n'est pas la prison elle-même. Mais voilà. Donc, au bout de quelques temps, la personne est un peu autonome.
Et alors, qu'est-ce qui vous a conduit chacune à cet engagement ?
Personnellement, j'ai été contactée par une personne que je connaissais. Et puis, c'est vrai que j'avais envie d'être dans une association un peu moins, bisounours, on va dire. Parce que c'est vrai que c'est quand même un monde particulier, le milieu carcéral. Et je pense que j'avais envie de ça. Après, on s'aperçoit que chacun pourrait venir. Bon, ça fait peur un peu, le monde détenu, prison, etc. Non, ça demande quelques qualités, on va dire.
Et moi, ce qui m'a donné l'idée de faire ça, c'est que j'avais eu à rencontrer quelqu'un qui avait été incarcéré et qui m'avait dit « Vous ne pouvez pas vous rendre compte de ce que c'est quand on est enfermé 22 heures sur 24 et qu'on n'a aucun lien avec l'extérieur, que votre famille vous a laissé tomber, que votre conjoint vous a laissé tomber, qu'on ne reçoit pas de courrier. On ne peut pas imaginer ce que c'est. » Et là, j'étais un peu tombée des nues, parce que non, je n'avais jamais imaginé ce que ça pouvait être. Et je m'étais dit qu'à la retraite, je pourrais bien faire ça. Voilà.
Et alors, est-ce que, justement, pour qu'on comprenne bien, est-ce que parfois il y a des moments difficiles? Est-ce que vous-même, vous avez vécu des moments difficiles dans ce cadre?
Alors, ce qui est difficile, c'est d'entendre à quel point la prison déshumanise. Indépendamment des personnes, c'est un système qui déshumanise. Voilà, ça, c'est vraiment, je trouve, éprouvant à écouter. Heureusement qu'on a un groupe au sein duquel on peut échanger. On a un groupe d'analyse de la pratique où on peut revenir sur ce qui nous met à mal. Et ça, c'est indispensable pour rester dans les clous, entre guillemets, c'est-à-dire pour pas dire de bêtises, pas avoir d'attitude inadaptée, et pour être au mieux dans ces rencontres avec les détenus. Alors, il y a des moments éprouvants et il y a des très bons moments, parce que les détenus restent des individus, entre guillemets, ordinaires. Et il y a des moments d'humour, il y a des moments d'échange tranquille. Il n'y a pas que des moments où on ne parle que de ce qui est très douloureux à vivre.
Et alors, on va en savoir plus. Comment construire une relation de confiance avec justement quelqu'un qui est privé de liberté?
Alors ça, alors d'abord, il faut de la patience. Alors, et puis j'ai une collègue qui dit modestie et humilité, et ça se confirme. La confiance, ça ne se décrète pas, c'est sûr. Il faut, alors moi je dirais savoir écouter et entendre, hein, entendre ce qui nous est dit au niveau où les détenus ont besoin que ce soit entendu. Ils n'ont pas besoin de commisération, ils n'ont pas besoin de plainte. Et c'est être là pour qu'ils puissent le dire. Parce que au sein de la prison, il n'y a pas beaucoup d'échanges. Enfin, je veux dire, il n'y en a même pas du tout entre détenus et entre détenus et surveillants. Il n'y a pas d'échange. Déjà, s'ils peuvent cohabiter sans violence, c'est déjà énorme. Alors, ces moments de parloir, c'est vraiment des moments où on peut dire tout ce qu'on veut, comme on veut. C'est violent, c'est avec des mots agressifs. Ça peut être plus tranquille, comme je l'ai dit. Mais c'est le moment où on parle comme on en a envie.
On en parle comme on en a envie, mais on parle de tout. On a le droit de parler de tout quand
Absolument.
On est visiteur.
Alors, on laisse. C'est les détenus qui amènent le sujet de l'échange du jour, selon ce qui s'est passé depuis la dernière visite, selon ce qui s'est passé avec le juge d'instruction, avec les surveillants, avec le co-détenu, selon l'actualité aussi. Là, il y a eu un monsieur célèbre en France qui a été incarcéré puis remis en liberté rapidement. On en a beaucoup parlé. C'est très variable. Ça peut être aussi des amateurs de cuisine, de cinéma, de lecture, moins. Mais moi, j'ai eu des séances de recettes de cuisine très, très sympas. Et puis aussi des échanges sur les films qu'on avait pu voir, les mêmes films qu'on avait pu voir. Et voilà, c'est très, très varié. Et c'est le détenu qui amène selon le jour, comme je le disais tout à l'heure.
Alors Marie parle beaucoup d'écoute aussi, hein,
oui, j'allais
d'attention,
venir, ouais.
Et c'est vrai que pour nous c'est aussi une qualité essentielle dans l'accueil des familles. Alors bien sûr on ne va pas avoir la même intimité que quand on est seul avec un détenu, voilà. Mais on essaye d'écouter surtout et de respecter ce que les gens nous disent. Quelquefois, ils vont râler contre l'administration pénitentiaire. Nous, on ne prend pas parti, on écoute. Et quelquefois, on fait un petit signe de tête, etc. Ils se sentent entendus et c'est l'essentiel, en fait. Je crois qu'ils ne veulent pas forcément qu'on soit d'accord avec eux, etc. Mais c'est vrai que ces moments d'attente, de parloir, c'est des gros moments de stress pour les familles. Comme ça, elles ont l'air un peu décontractées sur leur téléphone. Mais quand c'est les premières fois qu'elles arrivent pour visiter leurs détenus, ou même qu'elles n'ont même pas encore de permis de visite pour déposer un sac, simplement, etc., c'est vrai que tout est nouveau et puis c'est tellement réglementé que voilà, on sent que les familles sont vraiment stressées et là on sent notre utilité. Bien sûr, il y a des personnes à l'entrée qui donnent des renseignements purement administratifs, mais nous on est là aussi pour compléter si besoin, mais surtout pour entendre les familles, prêter des jeux aux enfants quand ils vont au parloir, adoucir un petit peu, on va dire, ce monde qui est quand même assez dur.
Et justement, vous qui êtes au contact, quels préjugés ou peut-être quels malentendus aimeriez-vous dissiper? Alors, soit à propos des personnes incarcérées ou de leurs proches. Est-ce que vous avez justement vu qu'il y a des clichés qu'on peut enlever?
Le pire cliché que j'entends autour de moi, c'est Ah ben ils sont à l'hôtel, tu parles, ils ont la télé, le frigo, ils sont nourris, logés, blanchis. Voilà. Alors que ou alors aussi le Club Med. Ah oui, on entend aussi le Club Med. Et c'est compliqué de d'ébranler cette image. Oui, ils sont nourris. Alors après, ils aiment pas. Ça, c'est encore autre chose. Mais il y a une telle... je vais donner un petit exemple. Un détenu que je vois depuis 2 mois, c'est-à-dire assez récemment, il n'imaginait pas à quel point ça pouvait être déstabilisant, mais même pire, cette sensation d'être coupé de tout et de tout le monde. En plus, lui, il est en cours d'instruction, il n'a pas le droit de contacter sa famille, mais il ne la contactera pas parce qu'il est en conflit avec toute sa famille. Eh bien, il n'a plus personne à qui parler, il n'a plus personne à qui téléphoner, il n'a plus de téléphone, il n'a plus d'Internet. Il exprimait comment ça le démonte complètement. Il y a ça. Et puis, lui aussi, mais je m'instruis beaucoup avec lui, la dernière fois qu'on s'est vu, il me disait que pour la première fois, il avait parlé en promenade avec quelqu'un qui avait tué quelqu'un d'autre. Et il me disait, mais c'est étonnant parce que vous savez, il a la même tête que tout le monde. Eh bien oui, il n'y a pas un profil type du criminel, évidemment, sauf au cinéma. Alors après, en plaisantant, on s'est mis à chercher les acteurs qui ont le profil type au cinéma du criminel et qui ont toujours des rôles de criminel. Mais voilà, il y a plein d'images toutes faites et qui se diluent quand on pénètre dans ce milieu, quoi.
Et juste une petite parenthèse, est-ce que vous pourriez nous décrire le parloir ? Parce qu'on a l'idée de ce qu'on en voit dans les films. Est-ce qu'il y a une vitre ? Est-ce qu'il y a des téléphones ? On voudrait juste comprendre.
Alors, moi, je vais décrire le parloir où on va. Et puis, Françoise, le parloir famille. Alors, nous, on va dans ce qu'on appelle le parloir avocat. C'est un grand couloir où il y a 15 ou 17, ce qu'on appelle box, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qui font à peu près 4 mètres carrés. Le long du couloir, il y a un hublot par lequel les surveillants peuvent jeter un œil pour savoir si tout va bien. À l'intérieur, il y a une table et de chaque côté de la table, il y a une chaise. Il y a une fenêtre avec des barreaux qui donnent sur l'extérieur. Il n'y a pas de vitre, il n'y a rien, sauf pendant le Covid, il y avait un truc au milieu, mais ça n'a pas duré très longtemps. Voilà. Il y a néanmoins un bouton, un gros bouton rouge. Et si vraiment il y avait quelque chose de très inquiétant, voilà, une urgence, on peut appuyer sur ce gros bouton. Et alors là, c'est l'alarme et ça bloque tout. Et les surveillants arrivent en courant, ça ne m'est jamais arrivé. Il y a juste un bouton où on peut appeler le surveillant. Quand l'entretien est fini, il vient nous ouvrir le box si on l'a fermé. Parfois, on le laisse entrouvert, ça évite d'appeler le surveillant. Voilà, mais on est face à face, comme à la table là où je suis dans le studio. La table est un peu moins large, mais voilà, on est en face l'un de l'autre.
Et les parloirs pour les familles ressemblent beaucoup à ça aussi, le hublot pareil, sauf que effectivement il y a une porte vis-à-vis, c'est-à-dire une porte par laquelle la famille rentre et une porte par laquelle le détenu rentre. Et il y a plus de chaises parce que comme on peut être à 3 personnes dans le parloir à la fois pour visiter quelqu'un, du coup, voilà, il y a un peu plus de chaises. Mais autrement, les choses sont à peu près similaires. Les temps de parloir durent 45 minutes, d'accord, voire quelquefois, il y a un autre parloir qui s'enchaîne derrière pour le même détenu avec les mêmes personnes. Donc ça peut durer jusqu'à 1h30.
Et alors vous qui êtes régulièrement au contact des établissements pénitentiaires, alors comment décrivez-vous leur état aujourd'hui ?
Ce qu'on sait, c'est qu'il y a de la surpopulation carcérale, ouais. Ça c'est clair, surtout en maison d'arrêt. Hein. Qu'effectivement, pour les détenus, ça doit être très difficile, sans doute pour les surveillants aussi d'ailleurs. Voilà. Et les familles encaissent.
Ça crée des tensions ?
Oui, je pense quand même que ce n'est pas simple hein, pour les détenus, parce que la promiscuité, et puis sur, voilà, quand on est à trois dans une cellule, oui. On se promène une fois par jour, ok, il y en a qui vont travailler, il y en a qui ont des activités autres, mais c'est vrai que ça doit être quand même assez terrible.
Oui, ben là, je confirme. Il y a eu, là, cet été, et puis au printemps, j'ai rencontré une fois un détenu qui était dans une cellule à quatre. Voilà, c'est pourri. Quand je lui demandais comment c'était de vivre ça, il m'a dit c'est pourri. Voilà. Et y a à Bourg un gros manque de surveillants. Et ça complique beaucoup de choses. Il y a des activités qui ont été supprimées. Il y avait le culte qui a été un temps supprimé. Enfin, toutes des occasions où les détenus peuvent sortir de cellules, rencontrer d'autres détenus et des personnes de l'extérieur. Et ce manque de surveillants, ça induit des conditions et pour les surveillants et pour les détenus qui n'améliorent pas la situation, c'est le moins qu'on puisse dire.
Est-ce que selon vous, la prison remplit-elle encore son rôle de réinsertion ?
Alors, c'est l'isolement est terrible et le fait de trouver un logement et un travail pour la sortie, ça paraît souvent mission impossible. Alors, il y a un service, hein, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le SPIP, qui est là pour ça. Moi, je pense que les personnes font ce qu'elles peuvent, mais elles se heurtent à plein de difficultés. Et il y a encore beaucoup de détenus qui sortent sans rien.
Voilà, parce qu'il n'y a pas la famille derrière, il n'y a pas... Quand il y a une famille qui est prête à accueillir, bon, même si, en attendant de trouver un travail, etc., c'est sûrement plus facile, mais voilà, c'est quand même un peu compliqué. Bon, on peut dire quand même au centre pénitentiaire, il y a un quartier de semi-liberté aussi où des détenus qui arrivent en fin de peine viennent là, semi-liberté parce qu'ils ont des horaires pour aller travailler ou pour faire des démarches pour trouver un appartement à la sortie, trouver un travail, etc. Et ça, c'est bien sûr, ils rentrent à des heures bien précises parce qu'ils restent des détenus. Voilà.
Si on pouvait interpeller les pouvoirs publics, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour aider le milieu carcéral ?
Alors ça, c'est... Ouais. C'est vrai, moi, j'aurais envie de dire, mais c'est extrêmement personnel, qu'il y a des durées d'incarcération qui n'auraient pas dû être suivies d'une incarcération réelle. On entend parler, parce qu'on n'a pas le temps de les voir, des détenus qui rentrent pour 3 mois, pour 6 mois. Et le fait d'être incarcéré, il perd son boulot, il perd peut-être son appartement, ça fout en l'air quand même un parcours de vie et on aurait peut-être pu faire autrement. Alors bon, c'est une opinion toute personnelle.
Voilà, de même que les gens ne sont pas forcément incarcérés tout de suite, ils sont en attente quand même de jugement et de passer en procès, etc. Et ces gens, ils sont libres pour l'instant, mais le jugement va arriver 2 ans plus tard. Et puis, est-ce qu'ils vont perdre leur travail, pareil, leur famille et... Donc c'est vrai que c'est parfois bien compliqué.
Et alors, enfin, dernière question, si vous pouviez adresser un message aux citoyens sur le monde de la prison, sur le monde carcéral, qu'est-ce que vous transmettriez comme message ?
Eh bien, ça peut arriver à tout le monde. Voilà.
Pareil, ça peut arriver à tout le monde. Et arrêtons de croire que la prison, c'est le Club Med ou quelque chose qui s'y avoisine. Oui.
On remercie Marie Carminati et Françoise Picolet d'avoir témoigné de leur expérience et de nous avoir partagé leur regard du milieu carcéral. Nous vous rappelons que ces bénévoles font partie de 2 associations, l'ANVP, l'Association nationale des visiteurs de prison, et la CAFAD, l'Association d'accueil des familles et amis des détenus, au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Celle-ci recherche des bénévoles. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez adresser un mail à contact@acafad.fr.
L'info locale sur Radio B.
L'un dans l'autre, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Perrine.
Merci Elsa et merci à vous pour votre écoute.
On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre magazine d'info locale.
Restez bien à l'écoute des bonnes ondes de Radio B.
En ligne ou sur 90 FM.
L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et Elsa.